Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, on va reprendre les bonnes habitudes de l'étude. On va ouvrir la méditation sur un livre de la Bible qui fait partie de la catégorie des livres poétiques. Voilà. Et nous allons donc méditer sur plusieurs semaines, enfin probablement jusqu'à la fin de l'année. Eh bien, ce livre qui comporte, si je ne m'abuse, eh bien 8 chapitres, mais il y a matière à méditer à travers ce qui nous est rapporté dans ces lignes. Alors j'aimerais faire d'abord une présentation de cet écrit, parce que assurément il est unique et il est très beau. Nous allons d'abord commencer dans cette première et deuxième étude par un titre que je donnerai, c'est l'assurance de l'amour. Alors le mot amour, vous allez l'entendre continuellement, hein, préparez-vous. Vous allez vous familiariser avec ce terme, mais il y a là naturellement eh bien quelque chose aussi de prophétique. Et donc nous allons parler de l'assurance. Qu'est-ce qu'est l'assurance de l'amour? Être assuré d'être aimé et en retour naturellement eh bien d'aimer. C'est peut-être plus difficile d'être assuré d'être aimé, hein, de savoir que l'on est aimé. Vous dire d'abord que ce livre est un groupe de 13 poèmes qui est chanté en dialogue. Alors c'est peut-être un petit peu la difficulté d'approche, parce que parfois, eh bien, ceux qui se sont livrés à la méditation du Cantique des Cantiques ne comprenaient pas toujours où se situer, parce que il y a des questions, il y a des réponses, qui pose les questions, qui répond, et il y a quelquefois un petit peu de confusion. C'était donc un chant, une manifestation donc chantée à deux, entre un roi et une jeune fille. Voilà, si vous voulez faire simple, si vous voulez que nous comprenions les choses, un roi qui s'appelle Salomon, une jeune fille de condition modeste, en fait c'est une bergère. Elle s'appelle Sunamite. Le roi, Salomon, on connaît naturellement un peu le personnage, parce qu'on en parle beaucoup dans l'Ancien Testament, mais Sunamite, elle porte un nom tout à fait particulier parce que ça veut dire repos et paisible. Une jeune fille, une bergère, dont le nom signifie le repos ou tout simplement la qualité paisible. Et puis, il y a des intervenants, les deux principaux, voilà, Salomon et Sunamite. Maintenant, il va y avoir également, eh bien, des intervenants qui sont des jeunes filles. On les appelle les filles de Sion ou filles de Jérusalem. Vous l'avez vu hein, dans la lecture, naturellement, on le découvre. Pour aller encore un peu plus loin, le thème général, et ça vous allez vous en souvenir tout le long, c'est montrer la beauté et la valeur de l'amour du couple. Alors c'est peut-être tout à fait approprié dans notre monde où il faut bien remarquer que les choses sont non seulement battues en brèche, mais que dire de plus? Donc, l'amour du couple institué par Dieu dans Genèse chapitre 2. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une compagne, etc. Donc, ça c'est le thème général. Le Cantique des Cantiques dépeint le processus du véritable amour, selon Dieu. La conquête de la jeune fille, les fiançailles, le mariage, les problèmes du couple, et puis l'épanouissement de l'amour, après peut-être parfois les épreuves, les difficultés rencontrées, les tentations, ça ce sont les problèmes de la vie à deux, mais vient ensuite le triomphe, l'épanouissement dans l'amour. contrastant naturellement avec la débauche ou l'infidélité, ou encore, dans son sens contraire, les restrictions de l'ascétisme, où soit on va dans un sens de jouissance et de libéralisme sans frein et irraisonné, qui a perdu la raison, pourrait-on dire, insensé, ou alors son contraire, qui était remarqué, qui peut être encore remarqué, à travers l'ascétisme. C'est-à-dire, comme la Bible nous le dit, ne prescrivant de pas se marier, s'abstenant de tout ce que Dieu a donné, justement, pour l'épanouissement de l'homme et de la femme. Il y a les deux, hein. Quatre interprétations, dont une choisie, qui sera peut-être plus accessible, et qui est reconnue certainement par nombre de commentateurs. Quatre interprétations. La première, c'est l'idylle d'un roi et d'une bergère. Nous avons choisi de nous orienter dans cette direction. Mais parfois, on trouvera dans le livre quelques notions. Et la deuxième interprétation, c'est l'idylle de Salomon, le séducteur invétéré, en sachant combien d'épouses il pouvait avoir et de concubines. Et naturellement, c'est à prendre en compte dans l'étude. Et une jeune fille qui s'en défend parce qu'elle est pure, pour rester fidèle à son berger. Alors j'expliquerai tout cela en cours de route, hein. Et puis, troisième point de vue, c'est l'idylle appliquée de l'Éternel à Israël. C'est un cadre tout à fait restreint de Dieu et de son peuple élu, c'est-à-dire Israël. Et puis celle également qui corrobore avec la première proposition, c'est l'idylle appliquée à Christ et à son Église. Voilà, à Christ et à son Église. Nous sommes toujours dans le registre des présentations. Je voudrais donner un avertissement d'abord. C'est qu'il y a un jaillissement d'images et d'allégories à l'oriental. Assurément, ce n'est pas facile de l'aborder, mais je voudrais quand même vous dire que ce sera moins difficile que l'Apocalypse. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre, parce qu'elles sont réalisées à travers la venue de Jésus, à travers la fondation de l'Église dont nous sommes. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont formidables et merveilleuses. Donc l'Apocalypse, il y avait une partie d'accomplissement prophétique, et puis le reste, c'était quand même assez... Bon, fallait attendre, il faut attendre encore. Mais là, eh bien, les choses sont faites. Ce sera beaucoup plus facile. Alors, vous allez voir qu'il y a des mots qui jaillissent d'un seul coup. Des expressions, toutes sortes de choses. Et nous, dans notre mentalité occidentale, c'est pas toujours facile. Et il y a une densité de pensées et de renvois à l'Évangile. C'est le travail auquel je me suis attaché pour vous amener à découvrir les différentes facettes de ce livre formidable. Et je vous recommande, et vous y penserez pour la prochaine fois et les fois prochaines, que vous allez avoir affaire à une transposition automatique entre Salomon et Sunamite, c'est-à-dire entre le roi et la bergère, entre Christ et l'Église. Mais ça devrait se faire automatiquement pour vous, hein. Et vous allez le comprendre. Une petite remarque avant d'ouvrir notre texte, c'est que la morale juive, c'est une petite anecdote, ne permettez pas à un homme de moins de 30 ans de lire le Cantique des Cantiques. Ouais, quand même assez curieux. Alors peut-être qu'il y a des choses osées, parce que il y a un langage et les mots utilisés, j'appellerais ça des mots hardis, mais qui expriment avec réalisme l'amour entre un homme et une femme. Parce que la Bible dit ce qu'elle doit dire. Elle exprime, finalement, eh bien, les choses comme elles doivent être dites. C'est pour ça qu'il peut y avoir... Enfin, j'espère que vous avez plus de 30 ans les uns et les autres, non? Voilà, c'est un petit clin d'œil, hein, pour commencer. Alors, on va commencer par l'assurance de l'amour, si vous voulez. Je vais lire les 11 premiers versets, et puis il y aura quelquefois avec d'autres titres qui vont, eh bien, venir par la suite, un chevauchement entre... quelques chapitres comme ça. Mais bon, on va suivre. On va commencer par le chapitre premier, donc « Cantique des cantiques de Salomon ». Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave, ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi, nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égayerons, nous nous réjouirons à cause de toi, nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi, ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. C'est pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons. Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. À ma jument qu'on attelle au char de Pharaon, je te compare, mon ami. Tes joues sont belles au milieu des colliers. Ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Nous te ferons des colliers d'or avec des points d'argent. Voilà l'assurance de l'amour. En tous les cas, une première partie. J'aimerais ajouter ceci en explication, en préambule. Le livre des Cantiques des Cantiques exprime, autrement dit que tout à l'heure, les sentiments les plus forts du cœur, dont le joyau, c'est l'amour. Dans la graduation en valeur d'approche de Dieu, ce livre représentait pour les Juifs le Saint des Saints, en comparaison avec la construction du Temple, comme l'Ecclésiaste correspondait au lieu saint, et celui du livre des Proverbes, puisque ce sont des livres poétiques, le parvis du Temple. Là, nous sommes au cœur de l'amour que Dieu a manifesté dans sa création et qu'il a manifesté dans sa rédemption. Nous sommes au cœur, nous sommes dans le Saint des Saints, si vous voulez le comparer de cette manière. C'est une approche. Et vous remarquerez que dans la Bible, il y a ce genre d'expression, Saint des Saints, Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs, Cantique des Cantiques, ce sont tous des superlatifs. Et il y a des raisons. Et on va l'expliquer. Et l'expression ou l'utilisation du superlatif marque la prééminence de Dieu et de son caractère divin sur toute chose. Dans le Cantique des Cantiques, l'amour apparaît comme la plus belle des perles. C'est un poème d'amour à l'oriental. L'approche est quelquefois un petit peu plus difficile pour nous, en raison de notre culture, qui est fait de dialogues souvent déroutants. Alors, il y a naturellement quelquefois une aide sur les Bibles, comme la mienne, où il est marqué, quand il s'agit de tsunamis, c'est marqué. Mais dans certaines Bibles, et les Bibles à l'origine, il n'y avait rien de marqué. Ça, ce sont des titres que les hommes ont donnés. Mais bon, ça va nous aider quand même. L'auteur en est Salomon, Cantique des Cantiques de Salomon. Ce roi d'Israël a écrit 105 cantiques. Cela nous est dit dans un livre des rois, chapitre 4. Mais celui-ci est unique tout le long. Et il est aussi le cantique le plus long. 13 poèmes, et il est de loin le plus beau, parce qu'il nous parle des festivités nuptiales. Il nous parle de la relation qu'il peut y avoir entre un homme et une femme. C'est une relation donc nuptiale. L'histoire, où il y a plusieurs interprétations, mais je vous en ai parlé tout à l'heure, se cadre autour de deux personnages, nous l'avons dit. L'amour pur d'un époux majestueux et puissant, un roi, donc Salomon, quand c'est pris dans cette interprétation. Il y a également une épouse, enfin, elle va devenir épouse d'origine très modeste, la Sulamite. Elle est bergère et cendrillon à la fois. Vous le découvrirez, vous verrez pourquoi. Par-delà le récit se dégage une signification profonde et spirituelle, unanimement reconnue par les commentateurs. L'amour de Christ pour son Église. C'est cette version que nous allons retenir. Cet amour est présenté comme passionné, infini, immuable et pur. Et nous découvrons comment la fiancée, ensuite devenue épouse, est progressivement introduite dans l'intimité de son époux royal et comment elle a été élevée de sa condition misérable ou modeste de bergère pour partager la position glorieuse de celui qu'elle aime et dont elle est aimée. C'est réciproque naturellement. L'amour humain y est honoré comme un don de Dieu. Le mariage y trouve sa place et son accomplissement, mais sublimé par cette autre dimension essentielle d'où tout découle et trouve sa raison d'être, sa destination finale, quand il nous est dit dans le livre de l'Ecclésiaste, la corde à trois fils ne seront pas facilement. Maintenant, nous allons voir si nous rejoignons pour positionner notre réflexion avant de commencer le commentaire des versets, ce que nous dit le livre des Éphésiens, et je voudrais que vous le mémorisiez parce que ça va être la constance et le suivi. Éphésiens chapitre 5, verset 25, où il est dit ceci. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et Paul parle de mystère, qui est levé, où un voile s'en trouve avec le livre du Cantique des Cantiques, quand il dit ceci, « Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » Voilà, ça c'est la situation que nous retrouvons, et qui est marquée dans le Nouveau Testament. Relation de Christ à l'Église. C'est la voix de la Sunamite qui se fait entendre d'abord. Et nous lisons « Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. » Qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Ici est exprimé le soupir d'obtenir une preuve d'amour personnel. Dans l'expression qui nous est donnée, et ce souhait, ce désir de cette jeune fille, de pouvoir être embrassée par celui qu'elle aime, eh bien, c'est qu'elle cherche une preuve de son amour. C'est pour ça que nous avons intitulé « L'assurance de l'amour ». Aujourd'hui, et je voudrais maintenant passer aux commentaires, le baiser a perdu sa valeur, et je vais vous expliquer pourquoi. Sinon, une signification d'émotion sensuelle. Et c'est pas tout à fait ce qu'il nous est dit. Dans la Bible, bibliquement, le baiser exprime davantage. C'est un signe naturellement d'affection. Mais c'est une alliance de paix. C'est un gage de réconciliation et c'est une preuve d'acceptation. On a vu le contraire avec Judas et Jésus, Trahison. Mais là, il y a toute cette articulation, cette manifestation et cette signification, et c'est toujours un geste d'amour pur et profond que l'on trouve dans le baiser. Alors, nous allons voir ce que cela peut signifier pour nous aujourd'hui, à l'instar de Sunamite. Eh bien, en quelque sorte, le soupir de l'Église, ou je dirais plutôt que l'Église soupire après l'assurance d'être aimée de son Sauveur, et c'est la meilleure preuve qu'elle n'est pas pour lui une étrangère et une inconnue. On peut le dire comme ça. Nous ne sommes pas, au regard de Christ, des étrangers et des inconnus. Le titre qui nous a été donné, c'est que nous sommes des enfants de Dieu. Que nous sommes fiancés, l'Église est fiancée avec Christ. Elle est l'épouse de Christ. Et lui est en train de nous préparer, comme nous l'avons lu dans le livre de l'Apocalypse Révélation, les noces. Les noces de celui qu'on appelle l'époux, ou celui qu'on appelle l'agneau, à cause de ce rappel qu'il s'est sacrifié pour nous, comme Paul le dit finalement dans Éphésiens. La découverte de Christ allume une flamme qui doit rester fervente, et la parole de sa bouche, eh bien, c'est l'objet de nos désirs. La parole de sa bouche, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la prédication. C'est le message de l'Évangile. C'est le message entier. Et ça doit, à chaque fois que nous sommes confrontés avec l'Évangile que nous entendons, ou l'Évangile que nous lisons, ça doit susciter finalement, eh bien, un soupir. Combien nous sommes aimés, et combien Dieu nous aime, et quel est le prix de cet amour? La bouche, c'est celle qui parle. Et la bouche de Dieu, elle ne dit pas des choses qui n'ont pas de sens, ou des choses qui n'auraient pas de valeur. Les paroles de sa bouche est de l'or pour nous. Et que un enfant de Dieu, un chrétien, puisse véritablement se délecter. Ce sont des baisers que Dieu nous donne. Combien, tantôt une parole ou une prophétie, ou une lecture, ou un message, d'une façon ou d'une autre, exhortative, d'encouragement, de consolation, ressemble à un baiser. Les baisers de ta bouche. Eh bien, c'est ce qui nous donne de l'assurance que malgré les problèmes et les difficultés que nous pouvons rencontrer, malgré l'isolement, la solitude, malgré le rejet et parfois les piétinements de la vie, quand finalement, eh bien, Dieu nous aime et il nous le dit à travers sa parole. Il nous le répète. À chaque fois que nous nous réunissons, à chaque fois que vous lisez la Bible, Dieu nous dit qu'il nous aime. Et nous avons cette assurance de l'amour. Et quelquefois, au plus désespéré, eh bien, à ce moment-là, nous reprenons confiance. Un peu plus loin, tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Mieux vaut le pain, mieux vaut le vin. Et tes parfums et ton nom. Cela nous amène à prendre en considération ce que veut dire aimer Jésus est préférable de loin à toute autre joie dont le vin est le symbole de cette joie et de la gaieté. Ouais. Il est question des parfums. Dans ce thème, les parfums ont une odeur suave. Les parfums en question, et ou le parfum en question est comme celui répandu aux pieds de Jésus par Marie, en gage d'adoration. Vous connaissez l'histoire. Il nous est dit « ton nom est un parfum également ». Ou plutôt, les noms multiples de Jésus révélés nous parlent de sa personnalité divine, autant de parfums que nous pouvons offrir sur l'autel de l'adoration et de la louange pour lui exprimer notre admiration sans borne. Oui, vous avez remarqué avec moi, tes parfums ont une odeur suave et ton nom est un parfum qui se répand. Le nom de Jésus, tant que l'Évangile gardera, le nom de Jésus au cœur de ce qu'il propose, eh bien, nous resterons dans la ligne. Nous resterons évangéliques et nous resterons dans l'esprit du christianisme. Là où il y a la déclaration du nom de Jésus, quelle que soit l'expression, eh bien, il y a toujours une bénédiction particulière. Il y a deux choses qui sont importantes. Il y a la croix, Golgotha, le sacrifice expiatoire de Jésus, il y a son nom. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je le dis, mais vous m'avez déjà entendu le dire, partout dans les cantiques où il y a le nom de Jésus, il y a une onction du Saint-Esprit. Ouais. On peut chanter beaucoup de choses, mais rien ne remplacera la croix et le nom de Jésus. Et c'est ce qui est dit justement à travers notre texte. Alors nous nous approchons de l'autel des parfums, et nous y portons son nom. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment, nous dit la suite. Les jeunes filles t'aiment, les vierges, traduit. Les vierges, c'est-à-dire ceux qui ont un cœur pur et reconnaissent le prix et la valeur des noms du nom de Jésus. Nous l'aimons à cause de son amour pour nous, parce qu'il nous a aimés le premier. C'est pourquoi donc les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi, nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements, nous nous égayerons et nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin, alors c'est avec raison que l'on t'aime. Tire-moi, nous courons après toi. Celui ou celle qui aime Jésus n'a plus qu'un désir véritable, être entraîné à sa suite. La conversion, c'est ça. Nous suivons Jésus. Nous marchons dans l'empreinte de ses pas. Et n'est-ce pas véritablement le désir le plus ardent et le plus fervent d'un chrétien? De faire de Jésus non seulement son compagnon, celui qui va porter le joug avec nous, mais de l'avoir devant nous parce qu'il sait où il nous conduit. Et nous marchons à sa suite. Nous ne marchons pas derrière quelques prétendument prophètes ou autres, mais nous marchons derrière Christ, parce que c'est lui qui est notre sauveur. Nous marchons donc à sa suite. Non pas tout seul, mais en compagnie de ceux qui sont vierges de cœur. C'est ce qui nous est dit. Entraîne-nous après toi, nous courons. Et c'est au pluriel. Et heureusement que nous ne sommes pas tout seuls. L'Église universelle marche à la suite de Jésus. L'Église locale marche à la suite de Jésus. Et nous nous égayerons, nous nous réjouirons et nous célébrerons. Ça, c'est la manifestation de l'Église dans son unité d'adoration. Nous adorons ici. Dans notre pays, nous adorons aussi, où il y a des enfants de Dieu qui sont nés nouveaux, qui sont convertis. Et dans le monde entier, nous adorons le nom de Jésus aussi. Vous avez remarqué avec moi, il est dit à un moment donné, le roi m'introduit dans ses appartements. Si vous voulez une autre traduction, eh bien, il m'introduit, le roi m'a amené dans ses chambres. Comme nous avons à comprendre qu'il s'agit d'une retraite secrète. C'est l'intimité dans les lieux cachés de sa présence. Dans toutes nos apathies et nos asthénies spirituelles, nous avons besoin de prier ainsi, « Tire-moi plus près de toi, Seigneur !» Et vous allez voir que nous allons retrouver des forces. C'est vraiment dans l'intimité, au contact de sa parole, dans sa présence, dans ses appartements, dans ce lieu secret. Alors à ce moment-là, c'est véritablement dans les chambres du roi qu'est le meilleur pour le peuple de Dieu. On connaissait la chambre haute, mais on connaît aussi l'intimité. Dans ses appartements, nous pouvons tout lui dire. Ce n'est pas pour rien que Jésus dira dans le sermon sur la montagne, « Quand tu pries, entre dans ta chambre. » Vous connaissez le texte? Et là, alors à ce moment-là, prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le donnera. Et pour tous ceux qui pourraient avoir tendance à se désespérer en tant que chrétiens, parce qu'ils ont été écrasés, parce qu'ils ont été piétinés, parce qu'ils ont été déçus d'une façon ou d'une autre par ceci ou cela, eh bien, rentrez donc dans les appartements du roi et vous n'allez pas en ressortir comme vous en êtes rentré. Lui va vous parler, de cœur à cœur, et il va vous relever. Alors tire-moi plus près de toi. Et le premier mouvement, c'est pas de fuir quand il y a des difficultés, c'est de nous approcher encore plus près du Seigneur et de rentrer dans ses chambres. Nous continuons. Et là, vous allez voir que ça prend une autre tournure. Il est dit ceci au verset 5, cette parole, « Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. » Ne prenez pas garde à mon teint noir, et puis on le reverra d'ici quelques instants. C'est seulement dans la communion intime de la chambre royale que nous découvrons ceci, au contact avec le Dieu Saint, avec le Dieu de perfection. Et Tsunamite va dire, mais je suis noir. Devant ce roi qui est pur, devant ce roi qui est immaculé, elle va s'apercevoir qu'elle est noire. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Tsunamite avait été brûlée par le soleil, comme elle l'explique, qui avait altéré sa beauté et noirci sa peau, l'Église a la même image d'origine. L'Église, à notre origine, est déparée et noircie par le péché. Pardon. Je suis noir, mais je suis belle. Alors peut-être pour ceux qui n'ont peut-être pas toujours le teint pâle, ne vous désespérez pas, dites comme Tsunamite, je suis belle. Naturellement. Voilà que la grâce de Dieu peut faire de son Église ce qu'elle peut faire de son Église, dans sa présence. Et tant que nous entrons dans la présence de Dieu, eh bien, sans jugement et sans condamnation, si nous sommes humbles, modestes et reconnaissants de ce que nous sommes, le Seigneur va nous voir, va nous montrer, et il va nous montrer ce qu'il y a, finalement, dans notre véritable nature, la noirceur, le péché, le mal. C'est pourquoi les choses sont dites ainsi. Mais Dieu est capable de nous rendre la beauté, même si nous gardons encore un teint un petit peu plus foncé. Il est capable, et ça c'est le miracle de Dieu qui est entrevu, de la régénération, de la sanctification. On en reparlera tout à l'heure. En présence de Dieu, un homme peut dire comme Job au chapitre 39, « Voici, je suis peu de choses, je ne suis rien. » C'est la même expression que « je suis noir » en quelque sorte. Devant Dieu, nous ne sommes rien. Par contre, nous sommes tout, parce qu'il nous aime et parce qu'il s'est donné pour chacun d'entre nous un objectif, une destinée dont nous allons découvrir les vérités. Trois grandes vérités nous sont révélées dans la présence du roi lorsque nous entrons dans ses chambres et dans ses appartements. Lui est pur et nous sommes, en tant qu'êtres humains, eh bien, nous sommes perdus et nous sommes noirs. La première vérité, c'est notre indignité naturelle. La deuxième vérité, c'est notre nouvelle beauté due à la grâce de Dieu. Et la troisième vérité, c'est l'amour de Dieu pour nous, malgré notre dégradation à cause du mal et du péché. Je le rappelle, ces yeux sont des yeux d'amour. On a déjà posé le fondement, l'assurance de l'amour. C'est parce que je crois que Dieu m'aime et que je suis sauvé qu'à ce moment-là, je peux continuer à m'approcher de lui. Autrement, je vais fuir, comme Adam. Tsunamite, de noire qu'elle était, était devenue comme les tentes de Kédar. Pourquoi Kédar? C'est pour ça qu'il y a des expressions qui sont tout à fait particulières au monde oriental et particulièrement, eh bien, certainement, à Israël. Parce que c'était une tribu qui se caractérisaient par leurs tentes en poils de chèvre noir. Voilà. Les gens de la tribu de Kédar, eh bien, se reconnaissaient de loin parce que quand on savait qu'il y avait des tentes noires avec des poils de chèvre de cette couleur, on savait que c'était eux. Et elle était devenue resplendissante, Tsunamite, comme les pavillons multicolores de Salomon. Il était le grand roi. Et là, il y avait quelque chose qui avait été transformé de cette couleur sombre à quelque chose qui était flamboyant. Les pavillons multicolores de Salomon qui faisaient la splendeur du palais royal. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi et ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Ne me regardez pas. Avant ou ayant vu le roi dans sa beauté, elle était rendue consciente de sa laideur à ce moment-là, Tsunamite. Et étant consciente de ce qu'elle est en tant que pécheresse, eh bien, elle n'a pas le désir d'attirer l'attention sur elle et elle le dit, je suis noire. Découvrir sa laideur à la lumière des perfections de Christ, c'est ce que nous avons déjà dit. Tsunamite avait marqué, ou elle était marquée comme elle le dit, on m'a fait gardienne des vignes. Et gardienne d'une vigne, eh bien là vous êtes en plein soleil en permanence. Et votre peau, même si elle avait peut-être 16, 18 ans, 20 ans, eh bien elle allait être altérée prématurément. Et elle était marquée par les épreuves, par les persécutions. Je vous ai dit, c'était une cendrillon, hein. Le travail de la vigne. Et si nous faisons la comparaison avec l'Église, l'Église issue du monde lui ressemble. Comment venons-nous à Christ? Avec nos épreuves, avec nos misères, avec nos oripeaux, avec tout ce qui nous a déchiré, tout ce qui nous a vieilli peut-être même. En tous les cas de l'intérieur, dans notre âme certainement. Et pourtant, si peu attrayante, Dieu s'est approché de son peuple, de son Église, de nous, et nous a offert son amour. C'est à croire ou à refuser, et fort heureusement nous l'avons cru. Tant que nous n'avons pas remarqué notre état de misère et que nous nous glorifions de nous-mêmes, c'est la preuve que nous n'avons pas passé beaucoup de temps dans les chambres du roi. Vous savez, je crois que quand les chrétiens sont assidus à l'approche de Dieu dans ses appartements, à travers la lecture de la Bible, à travers la méditation de la parole, à travers la prière, à travers la louange et l'adoration, c'est-à-dire tout ce qui contribue à la piété, à notre foi, au développement de notre vie spirituelle, et que nous croyons que nous sommes parvenus à quelque chose, que nous nous glorifions nous-mêmes en disant ceci et cela, en pensant que nous avons déjà conquis le monde, comme Paul le reprochera aux Corinthiens, vous avez déjà commencé à régner, c'est que nous n'avons pas passé beaucoup de temps dans la présence de Dieu, dans ses chambres. Hein. Pas d'illusion à nous faire. Hein. Parce que le développement spirituel, il se passe vraiment dans cet amour de Dieu, et auprès de Dieu, et de ce qu'il met à notre portée, et qu'il nous conduit, que nous nous laissons conduire dans les verts pâturages. Et auprès des eaux paisibles. Nous continuons. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où fais-tu paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi, car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? La Tsunamite questionne. Pourquoi et comment? Pourquoi et comment Christ peut-il aimer l'Église si imparfaite? C'est pourquoi Tsunamite pose la question, mais dis-moi. Et nous, quelquefois, nous pouvons nous poser la question, mais pourquoi Dieu m'a choisi? Pourquoi m'a-t-il appelé? Pourquoi suis-je élu? Dis-moi, où fais-tu paître? Il y a une notion de nourriture, là. Un berger fait paître pour que ses brebis puissent trouver de la nourriture, manger. Ou brouter, si vous voulez. Où fais-tu reposer ton troupeau? Il y a une question de nourriture et de repos. C'est le psaume 23, hein, en quelque sorte. Tsunamite veut être nourrie et se reposer qu'auprès de celui qu'elle aime et nulle part ailleurs. C'est là sa place. Et pour un enfant de Dieu, pour l'Église en général, notre véritable place, c'est pas de courir de droite et gauche, c'est d'être vraiment et de nous tenir dans la présence de notre Dieu. Là où nous savons, Dieu est partout. Mais là, peut-être particulièrement, où Dieu, eh bien, nous attend. Que le peuple de Dieu, que l'Église ait besoin de trouver de la nourriture et qu'il ait faim de trouver cette nourriture divine qui est sa parole et la présence du Seigneur. Autrement, eh bien, si l'on ne mange pas, alors à ce moment-là, on va dépérir, on ne pourra pas croître spirituellement et au lieu de repos, nous serons toujours agités. Et dans un monde qui l'est déjà, ça n'arrange pas les choses pour le chrétien. Les attributs, ou plutôt les attraits de la terre, auront-ils raison? Auront-ils plus d'influence pour le chrétien que ce que nous propose Christ et sa présence? Qu'est-ce que nous aimons le plus? Est-ce que ce sont toutes les fantaisies, ou toutes les voluptés, ou toutes les... tout ce qui peut briller autour de nous, et c'est véritablement Christ qui nous attire et qui retient notre attention et notre affection. Alors nous avons besoin de sa parole pour nourriture et sa communion qui va nous donner le repos. C'est maintenant l'époux, c'est-à-dire Salomon, qui parle et qui répond au verset 8. Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. Il nomme l'élue de son cœur, la plus belle parmi les femmes. C'est un compliment, hein. Noire, brûlée, sans apparence, elle est aux yeux du roi, elle est aux yeux de l'époux, la plus belle, et une seule raison donne à Salomon de le dire et de qualifier Sunamite de cette manière, c'est parce qu'il l'aime. C'est parce qu'il y a l'amour. Certaines personnes sont belles sans être agréables. Oui. D'autres agréables sans être belles. On appelle ça le charme. Faut toujours se méfier de l'extérieur, hein, et des apparences. Le plus important, c'est le charme. Oui. Et moi, je crois que Sunamite, elle est noire, elle est noircie. Vous connaissez les raisons morales. Mais le roi l'aime. Et vous savez, l'Église, elle est noire, elle est noircie. Il n'y a pas que des qualités, hein. Et pourtant, le Seigneur l'aime. Ouais. Et l'Église, c'est la plus belle. C'est la plus belle œuvre de toute sa création. Vous vous rendez compte? Qu'il a fallu qu'il donne son Fils unique pour que nous devenions, eh bien, ce corps le plus merveilleux dans l'histoire de la création par la rédemption. Sunamite est les deux à la fois. On peut le dire, elle est agréable et elle est belle. Rien ne peut changer les sentiments de Christ pour son Église, ni nos erreurs. Écoutez bien, frères et sœurs. Ni nos erreurs, ni nos fautes, ni nos égarements et nos imperfections. L'Église est estimée à un grand prix, et Jésus la voit en vertu de son sacrifice. C'est pas en raison de nos mérites, c'est pas en raison de ce que nous avons ceci et cela, etc., etc. C'est en raison du sacrifice de Christ à la croix du calvaire. Et c'est pour ça que nous avons lu tout à l'heure, il s'est livré pour elle. Et vous avez les termes de Paul qui nous dit, mais il a tout donné, Jésus, pour qu'elle puisse parvenir dans ses palais célestes. Pour l'instant, nous sommes dans la misère des tentes de Kédar, noires. Mais bientôt, nous irons avec les pavillons flamboyants de Salomon, naturellement. Alors, va sur les traces des brebis, près des demeures des bergers. Voilà la désignation où les fidèles trouveront, eh bien là, la nourriture et le repos, car Christ a son troupeau et il a aussi ses bergers. Les compagnons sont les bergers pour le troupeau. Et vous savez, si nous revenons à ce que nous dit dans Éphésiens l'apôtre Paul, qu'il a donné les uns, il a fait des dons. Ouais, il y a les troupeaux, c'est au pluriel. Pour n'en faire qu'un, mais il a aussi donné des bergers. Et c'est l'interprétation que nous pouvons donner, tout simplement, de ce qu'il nous est dit. Sors sur les traces des brebis et fais paître tes troupeaux près des demeures des bergers. Ça, c'est le don de Dieu à travers tout cela. Nous avons besoin de reconnaître. Parce que Dieu va prendre soin de ceux qu'il aime, donc en d'autres termes de son Église. Alors, je voudrais pas vous choquer pour la suite, mais si nous la lisons, à ma jument qu'on attelle au char de Pharaon, je te compare au mon ami, tes joues sont belles au milieu des colliers, ton cou est beau au milieu des rangées de perles, et nous te ferons des colliers d'or avec des points d'argent. Je m'explique. Comparé à une jument. La comparaison, vous m'excuserez, mais je voudrais pas quand même, je voudrais sortir indemne. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Comparer une femme à une jument, écoutez bien, il y a une signification, hein, en Orient, était un très grand compliment, et je vous pose aujourd'hui la question, si vous le dites à une dame, tu ressembles à une jument. Misère. Vous savez que dans l'Antiquité, et ça c'était vraiment, j'allais dire le dada de Salomon, quand il allait faire du commerce de chevaux en Égypte, Dieu lui a dit, fais attention, hein. Vous connaissez l'histoire, hein. Ça a été une des raisons de sa chute, hein. Parce que pour un homme, pour un propriétaire, un cheval, remarquez aujourd'hui, on a mis des chevaux vapeur. Vous savez, les hommes, ils sont drôlement fiers d'avoir des chevaux vapeur sous un capot et de pouvoir rouler à 340 km/h quand c'est limité à 30. Non, mais toujours est-il que la fierté, vous savez, si vous faites le décalage dans le temps, vous avez la même chose. Alors, naturellement, tout cela, faut l'interpréter. Les chars de Pharaon évoquent le triomphe et la royauté la plus éclatante. C'est pour ça qu'il est parlé à ma jument qu'on allait être aux chars de Pharaon. Vous comprenez naturellement. Il est parlé après de joyaux, de colliers, de chaînes d'argent. C'est Tsunamite, la jeune bergère, qui est ornée de tous les atours d'une grande reine. Elle est aimée, elle est choisie. Le roi veut encore accentuer l'éclat de sa beauté, de cette beauté dégradée dont nous avons parlé tout à l'heure. Le roi veut véritablement la combler et faire d'elle une grande reine. N'est-ce pas les intentions et le cas pour l'Église que Christ purifie et sanctifie? Dans le livre de Corinthiens, il nous est dit au chapitre 6, écoutez bien, « Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom de Jésus-Christ. » Est-ce que vous le croyez ça? Qu'il nous a pris dans notre noirceur et que il nous a donné cette eau de purification à travers son sang et à travers le baptême que nous avons pris les uns et les autres. C'est pas l'eau qui nous a purifiés, qui nous a lavés, qui nous a sanctifiés. Et c'est l'engagement en conséquence que nous avons pris dans la reconnaissance que quelqu'un, notre roi, notre sauveur bien-aimé, notre fiancé en quelque sorte, par rapport à l'Église ou notre époux, et bien c'est à cause de ce qu'il a payé qu'aujourd'hui nous pouvons affirmer que nous avons été lavés, que nous sommes sanctifiés et que nous avons été justifiés. Nous sommes justes, l'Église est juste aujourd'hui. Elle est propre, même s'il reste encore beaucoup de choses. Ainsi paré et embelli, revêtu de l'habit de noce, parce que c'est ça, le but à atteindre, c'est que nous puissions nous présenter aux noces de l'agneau, comme nous en avons parlé longuement, avec véritablement une parure qui n'est pas notre fabrication, qui n'est pas notre pensée ou notre conception, mais qui est celle entièrement de Christ, à travers ce qu'il a accompli pour nous. L'Église paraîtra triomphalement dans le ciel, dans toutes les manifestations et dans toutes les magnificences de Christ son époux. Et je termine. Lorsqu'il viendra en ce jour, le retour de Jésus-Christ, lorsque Christ reviendra au temps marqué par Dieu, qu'est-ce qu'il sera? Eh bien, il sera glorifié dans ses saints, dans ses tsunamites, dans ses bergers et dans ses bergères, à travers tous ceux qui ne comptaient pas pour le monde, tous ceux qui étaient noirs, tous ceux qui avaient été noircis par le mal et le péché, tous ceux qui avaient été dégradés. Alors à ce moment-là, quand Jésus reviendra, il sera glorifié à travers l'Église, à travers nous, à chacun d'entre nous, et il sera admiré de tous ceux qui auront cru, dans le ciel et sur la terre, par toutes les autorités, les principautés, les dominations dans les lieux célestes. Tout le monde fléchira le genou devant Christ, devant lui, en raison de ce qu'il aura fait de son Église, d'une simple Église qui ne portait même pas le nom, d'une simple humanité, eh bien il en fera véritablement l'admiration de l'univers entier. Alors je m'arrête là, on reprendra la prochaine fois, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses. Je m'arrête sur les mots, j'essaie de toujours mettre en parallèle eh bien le texte, qui est quand même quelquefois assez difficile d'accès, de compréhension, et de le ramener toujours au Nouveau Testament, c'est-à-dire Salomon, Tsunamite, Christ, l'Église. Ça, c'est très compréhensible pour nous, Christ et l'Église. C'est simple, hein? Mais ça nous aide à comprendre. Alors, la prochaine fois, nous continuerons à parler de l'assurance de l'amour, parce que c'est ce que nous avons découvert, et nous sommes rentrés là dans cette introduction à ce livre par l'assurance de l'amour. Nous allons poursuivre, et puis après, nous passerons à d'autres phases de découverte. Si vous voulez, j'ai mis une petite affiche à l'entrée. Vous verrez les différents stades que nous allons découvrir à travers le livre des Cantiques des Cantiques. Je vous rappelle une chose, nous allons prier d'ici quelques instants. La prochaine réunion qui nous réunira pour aborder eh bien tout simplement la fin du chapitre 1er et le début du chapitre 2, ça sera le mercredi 13 mars à 20h. On va prier quelques instants, s'il vous plaît. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te remercions pour ta bonté et ta fidélité. Nous voulons, Seigneur, te rendre grâce parce que tu es en train de nous ouvrir les yeux. Et déjà, tu nous montres, dès l'approche de ce livre et de l'explication, qu'en effet, eh bien, il y a déjà, Seigneur, tellement présent, Seigneur, tellement compréhensible, tellement sensible à nos cœurs. Eh bien, Seigneur, ce que tu es venu faire, tu es venu, Seigneur, nous tirer, Seigneur, de notre péché, donc de notre noirceur. Et nous pouvons dire, aujourd'hui, l'Église de Christ peut dire, je suis noir ou j'étais noir, mais je suis belle. Je suis belle non pas par moi-même, mais je suis belle parce que Christ m'a rendu belle. Il m'a lavé, il m'a sanctifié, il m'a purifié et il a fait de moi non seulement une fiancée, mais il m'a fait de moi une épouse pour l'éternité. Merci Seigneur pour cette belle histoire que nous commençons et nourris-nous encore afin que nous nous réjouissions. Ce n'est pas un message dramatique, c'est un message enthousiasmant, c'est un message de paix et de joie, c'est un message qui nous donne d'avoir vraiment envie d'aller au ciel dans l'espérance, Seigneur, que tu reviens bientôt et que tu viendras nous chercher. Merci notre Dieu, merci Jésus-Christ. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.